Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Que pourraient avoir en commun la tuerie de Las Vegas, le crash du vol 95-25 de Germanwings ou le meurtre de ces deux enfants par le docteur Jean-Yves Verdun? Les auteurs de ces massacres avaient consommé des médicaments psychotropes, en cause notamment des antidépresseurs somnifères ou tranquillisants qui, au lieu d'apaiser les troubles psychiques, pourraient, je dis bien pourraient, avoir pour conséquence de les amplifier. C'est votre thèse, Roger Langlais, vous la publiez dans un ouvrage intitulé « Psychotropes et tuerie de masse » aux éditions Actes Sud. Alors, il faut d'abord nous dire ce que vous entendez par psychotrope.
Alors là, ce sont les médicaments psychotropes, ceux que on prescrit malheureusement, je dirais, beaucoup trop systématiquement, sur de très longues durées d'ailleurs, alors que le bénéfice c'est sur quelques semaines normalement, on va dire. Et des millions de Français, en l'occurrence, en consomment. Dans le monde entier, c'est devenu une consommation de masse. Et historiquement, eh bien, le problème, c'est que, et c'est très documenté, c'est une thèse, d'accord, mais c'est quand même très très documenté, on voit une corrélation, hein, une relation entre la multiplication de ces tueries de masse, qu'on appelle aussi les meurtres suicides, et la consommation de ces médicaments. C'est corrélé dans le temps, et là, évidemment, il faut plus que s'interroger, il faut intervenir.
Alors, je dis qu'il s'agit de votre thèse, puisque, évidemment, la question va consister à savoir s'il s'agit d'une corrélation ou d'une corrélation sans cause, puisque on peut en voir parfois en statistique Roger Langlais. En tout cas, dans votre livre, vous incriminez deux molécules, les benzodiazépines et les fameux inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine,
autrement dit,
la plupart des antidépresseurs. Ce sont eux qui pourraient, j'utilise toujours le conditionnel, avoir un lien avec des tueries de masse ou des meurtres inexpliqués. Donnez-nous un exemple.
L'exemple le plus connu, évidemment, c'est celui d'Andreas Lubitsch, le copilote allemand qui a crashé son appareil en France, hein, et qui, dont on a retrouvé effectivement qu'il prenait ce cocktail de médicaments psychotropes. Et c'est malheureusement tout à fait significatif de la multiplication aussi des pilotes qui crashent leur avion. On a quand même ce phénomène qui s'amplifie depuis les années 80. Ça devient
énorme.
Qu'est-ce
qu'il y a d'autre comme exemple de pilotes ayant crashé son avion?
Alors, bon, j'en donne tout un tas. Je montre comment historiquement, effectivement, ça monte sur toutes les compagnies aériennes. Hein, on n'a pas que la compagnie allemande. Et c'est devenu un vrai problème au point qu'aujourd'hui, on préconise très fortement le suivi toxicologique des pilotes et des copilotes. Comme d'ailleurs c'est fait pour les conducteurs de train aujourd'hui en France, les victimes, les associations qui se battent là-dessus ont obtenu que les conducteurs de train soient contrôlés systématiquement. Il faudrait que ça le soit.
Contrôlés, ça veut dire qu'il y aurait une interdiction, parce que sur
il y a une interdiction, par exemple, de prendre des benzodiazépines par les conducteurs de train aujourd'hui, hein, médicaments psychotropes et conduite automobile aussi. Il faut rappeler que sur l'automobile, on est en voie d'une interdiction, c'est-à-dire qu'on rappelle, grâce aux victimes qui ont obtenu ça, sur les paquets de médicaments. Qu'il ne faut pas conduire quand on prend des antidépresseurs ou des benzodiazépines.
Mais parce que là, il y a un risque de somnolence
Somnolence, mais ce qui est important, il suffit de lire la notice, puisqu'aujourd'hui, les labos sont obligés de le mettre sur la notice.
Il faut avoir beaucoup de temps, généralement, pour lire les notices.
Voilà, les notices sont devenues un peu longues, mais les effets secondaires sont redoutables, et on y voit notamment le risque d'accroissement des envies suicidaires et des comportements agressifs vis-à-vis d'autrui qui peuvent aller, on le sait aujourd'hui, jusqu'à faire des massacres. Et on le voit, on l'a vu encore récemment, un jeune qui a foncé sur une pizzeria, qui a tué une personne et qui en a blessé beaucoup d'autres et qui était sous benzodiazépine et antidépresseurs.
Alors, le risque, je le répète, Roger Langlais, c'est qu'il y ait une corrélation sans cause. Maintenant, lorsque vous interrogez des psychiatres ou lorsque vous évoquez ces deux molécules, quel lien il pourrait y avoir entre la volonté de tuer des innocents, puisque dans ces cas-là, en fait, il s'agit de personnes qui sont frappées de manière aveugle par ces meurtres et la prise de ces médicaments.
Et en fait, ces médicaments favorisent le passage à l'acte. C'est-à-dire, il y a une levée d'inhibition, hein. Il y a même une perte, on peut le dire, de moralité, hein, tout simplement. Le surmoi n'est plus là. Il n'y a plus que de la pulsion. Et dans un état où on n'a plus peur de la mort, d'une part. Et je rappelle, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais l'historique aussi des médicaments qu'on donne aux soldats. Cette levée d'inhibition fait qu'on n'a plus d'empathie, on n'a plus de considération pour la souffrance d'autrui et pour la sienne propre. Il y a une désensibilisation. Et cette désensibilisation, aujourd'hui, est amplifiée en plus par un phénomène de perte de sentiment du réel. C'est-à-dire qu'en gros, entre le jeu pur, hein, ou le rêve, et la réalité, on ne distingue plus, on ne fait plus la différence, et on retrouve notamment chez les grands tueurs de masse comme Breivik, par exemple, le fameux Norvégien qui avait tué 77 personnes, eh bien, on a découvert aussi que parallèlement, il passait tout son temps à jouer sur des jeux vidéo, et on a très souvent ça chez les adolescents, c'est-à-dire prise de médicaments psychotropes, plus jeux vidéo qui font perdre la notion de réalité, qui transforment tout en jeu, où il s'agit de tuer le maximum de monde.
Enfin, ça, c'est pas le cas général, puisqu'on a tous eu l'occasion de prendre des psychotropes, et alors on peut se souvenir par exemple de la somnolence, moi je me souviens de ça, mais pas du tout de l'apparition de pulsions violentes ou ce genre de choses. Ça veut dire que ça ne touche pas tout le monde, Roger Langlais.
Alors malheureusement ça touche beaucoup de personnes, et on le voit, il suffit de lire les notices aujourd'hui, pour des accès de suicidaires amplifié ou de violence amplifiée aussi, ça peut toucher jusqu'à une personne sur 100, vous voyez, sur des millions de gens qui en prennent, ça commence à faire beaucoup, une personne sur 100, et pour d'autres cas encore plus graves, une personne sur 1000, ça fait énormément de gens quand même.
Alors c'est la thèse donc que vous développez dans votre livre Psychotropes et tueries de masse, publié aux éditions Actes Sud. Lorsque vous évoquez cette thèse au laboratoire, puisque vous êtes un journaliste d'investigation, on vous doit de nombreuses enquêtes, lorsque vous avez évoqué cela avec les labos, qu'est-ce qu'ils vous répondent?
Alors, ils sont très gênés, ils sont dans le déni, comme on le voit d'ailleurs pour tous les scandales sanitaires, c'est jamais les labos qui l'ont sorti, très rarement les médecins ou des médecins exceptionnels, des lanceurs d'alerte, et résultat, ce sont les victimes, en fait, qui, en faisant des procès et en constituant des associations, arrivent à faire pression sur les labos et à faire sortir la vérité, comme à chaque fois. Mais il existe beaucoup de solutions, des solutions non médicamenteuses.
Lesquelles ?
Alors, notamment toutes les techniques, on va dire, de réinsertion psychosociale, puisque très souvent, on a quand même un dénominateur commun, c'est la solitude. Ou un isolement de la part de ces tueurs suicidaires. Et on a, bien sûr, aussi, tout simplement, l'hygiène de vie. C'est-à-dire ne pas compenser par des somnifères, puisque les somnifères sont aussi en cause là-dedans, et par des médicaments, tout simplement un déséquilibre de la vie, mauvaise alimentation, stress permanent lié à la vie sociale moderne, et qu'on peut combattre par des techniques douces. Je pense en particulier à l'activité physique, on revient sur des bases très élémentaires. Conserver l'idée que l'hygiène de vie est déterminante dans cette histoire.
Alors pour autant, on ne peut évidemment pas suggérer aux auditeurs d'arrêter brutalement leur
traitement. Ou pas, puisque c'est souvent l'arrêt brutal, justement. Mais simplement, ce qu'il faut rappeler aux patients et aux médecins, c'est que ces médicaments ne sont valables que quelques semaines, voire quelques mois au maximum. Or, on a aujourd'hui une chronicisation sur des années et voire des décennies de ces médications.
Les pièces du dossier à retrouver dans votre livre, Roger Langlais, Psychotropes et tueries de masse, c'est aux éditions Actes Sud.